passion moderniste.
Vive le roi !
Le podcast qui éclaire.
Versailles, la cour, le peuple, la reine, le clergé.
L'histoire moderne.
La terre est proche.
La thèse est osée.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion moderniste. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je vous propose de rencontrer des jeunes chercheurs et chercheuses en master ou en thèse qui étudient l'histoire moderne. Et pour rappel, oui, rappelez-vous, l'histoire moderne, c'est un peu cette période qui s'est glissée entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine, c'est-à-dire en gros pour l'Europe occidentale entre les années 1500 et 1800. Le but de ce podcast est vraiment de vous faire découvrir des choses sur l'histoire, même si vous n'y connaissez rien. Épisode 40, Pauline et Anne McIntosh, c'est parti.
Il y a des gens que ça intéresse ce...
Non, personne.
Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons partir pour l'Écosse du XVIIIe siècle avec une femme à la vie très mouvementée. Je ne parle pas de mon invité, mais bien du sujet du podcast. Parce que mon invité aujourd'hui, notre guide temporel, en quelque sorte, c'est Pauline Fleury. Bonjour Pauline.
Bonjour Fanny.
Pauline, je te reçois parce que tu as soutenu un mémoire à l'Université Paris-Nanterre en 2023 sur le sujet. Alors attention, je prends mon meilleur accent. Portraits of the Rebel as a Young Lady. Anne Farquharson, Lady McIntosh, 1723-1784-87. Tu étais donc sous la direction de Clotilde Prunier. Et je le dis aussi, nous avions déjà fait un épisode qui était centré sur le parcours d'une femme avec une autre invitée. Hein. Mais je vous renvoie pour ça vers l'épisode 30 qui était sur Christine de Suède qui, elle, était une femme roi, oui, une femme roi protestante qui était née un siècle avant le personnage du jour. Donc là, on est un siècle plus tard, mais vous allez voir que les femmes peuvent toujours avoir des destinées un petit peu qui changent du commun dans des contextes politiques assez compliqués. Déjà, Pauline, première question un petit peu rituelle dans ce podcast. Pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet de mémoire ?
Alors, j'ai repris mes études après avoir été enseignante en 2021, du coup. Et quand j'ai... il s'agissait de faire de la recherche en histoire. Dans tous les cas, c'était le principe. Mais mon passé d'angliciste faisait que je ne pouvais pas juste me ramener en master d'histoire comme ça, comme une fleur.
Donc, tu étais prof d'anglais ?
J'étais prof, j'étais institutrice, j'étais en CE2. Tout ça pour dire que la solution, c'était d'aller en master, non pas d'histoire, mais du coup, LLCE, donc langue, littérature, civilisation étrangère, spécialité anglais, et en se spécialisant en master en civilisation, c'est-à-dire le joli mot qu'on utilise en anglicisme pour parler de l'histoire, en fait. Et quand il a fallu trouver un sujet, ça s'est un peu imposé rapidement, parce que l'Écosse, c'est quelque chose qui me fascine depuis... Je ne compte plus les années. voilà, c'est assez vieux comme intérêt, voire comme obsession. Hein. En cherchant, je ne sais pas trop comment ça m'est venu. Le process est un peu flou, mais j'ai lu sur quelqu'un et je n'ai pas lu assez. Et quand j'ai voulu chercher plus, il n'y avait rien. Et donc j'ai dit, je vais le faire moi-même alors.
Bah, c'est une très bonne démarche, effectivement. Parce que pour travailler sur Anne McIntosh, tu as donc étudié l'Écosse et l'Angleterre du XVIIIe siècle. Alors raconte-nous justement, c'est quoi le contexte historique et politique de cette époque ?
Alors le XVIIIe siècle, en Angleterre et en Écosse, mais un peu partout en Europe, on le sait, c'est ce siècle un peu de changement où les mentalités, la science, la politique, tout est un peu retourné dans tous les sens parce qu'on se rend compte que des choses ne vont pas, que des choses pourraient être améliorées. Et l'Écosse et l'Angleterre, ils font évidemment pas du tout exception. Le seul souci de l'Écosse, c'est que l'Écosse, elle est recluse, surtout les Highlands qui sont quand même très loin avec des... contexte un peu géographique, des contextes, même en termes de temps, les gars, il pleut tout le temps sur eux, ils n'ont pas le temps de se poser des questions.
Je rappelle que l'Écosse, c'est ce qui est tout au nord de l'Angleterre.
Absolument,
c'est la partie tout au nord.
C'est ça, c'est tout au nord. On parle même, il y a certaines îles écossaises qui sont plus proches de la Norvège que de l'Angleterre, pour situer un peu l'étendue géographique de la nation. C'est pas un pays, c'est bien une nation. Le pays, c'est le Royaume-Uni, déjà à l'époque, puisque l'Écosse et l'Angleterre deviennent un seul et même royaume en 1707. Avec l'union des couronnes, et c'est l'année où l'Écosse perd son parlement. Donc en 1707, l'Écosse n'est plus un pays à part entière, mais sous la gouverne du roi ou de la reine d'Angleterre. En l'occurrence la reine, parce qu'à l'époque c'était Anne Stuart qui était monarque du coup du Royaume-Uni, d'Angleterre et d'Écosse, et d'Irlande.
Et donc le XVIIIe siècle, mais là on est un peu plus unifié, on est ensemble ou il y a encore des problèmes ?
Alors, l'idée c'est d'être unifié, évidemment. Les Stuarts...
J'aime bien l'idée.
Ouais, parce qu'il y a toujours la théorie et la pratique, hein, on connaît, surtout dans ce genre de contexte un peu complexe. Donc les Stuarts accèdent au trône d'Angleterre en 1603, quand Jacques Ier, qui est le fils de Marie Stuart, reine des Écossais, qu'on connaît très très bien puisqu'elle a été reine de France, succède à Elisabeth Ier. Comme Elisabeth Ier n'a pas d'enfant, on trouve son héritier le plus proche, et c'est Jacques Ier. Chance inouïe, Jacques Ier est protestant, contrairement à sa maman qui était catholique, donc c'est tranquille, il peut rentrer sur le trône d'Angleterre sans souci, puisque à l'époque, le trône d'Angleterre devait être occupé par un protestant. Donc tout se passe à peu près bien correctement, jusqu'à ce que Jacques II, un autre Stuart, beaucoup plus tard, on parle de 1688, lors de la Révolution glorieuse, se convertit au catholicisme parce qu'il épouse une princesse française, qui est catholique. Là, ça pose évidemment beaucoup de soucis, surtout pour le Parlement, qui est en fait en train de rappeler que le roi d'Angleterre doit être protestant. Il se fait tranquillement déposer par nul autre que ses filles et son beau-fils. Super repas de famille, j'imagine. Donc c'était lui, ses deux filles Marie et Anne, qui seront tour à tour reines d'Angleterre, et le mari de Marie, Guillaume d'Orange, qui lui vient des Pays-Bas, qui reprennent le trône pendant grâce à la Révolution glorieuse de 1688.
Et en Écosse, du coup, comment ça se passe par rapport à ça, et même le contexte en général en Écosse ?
Alors, c'est assez partagé parce que l'Écosse, comme l'Angleterre et comme les autres nations comme les autres pays des îles britanniques, c'est un peu complexe de naviguer entre nations et pays à cette époque-là parce que ça change assez vite. C'est tendu. Les termes sont assez compliqués à utiliser correctement. Je m'excuse d'avance si je fourche en prononçant un mot ou un autre à la place de l'autre. C'est assez compliqué parce qu'en Écosse, on trouve des catholiques et des protestants. Mais indépendamment de la religion qu'on exerce, de la branche du christianisme à laquelle on appartient, on part du principe qu'un Stuart est un Stuart, donc un héritier. Et donc,
on ne le remet pas en question.
Il existe, donc voilà. Mais comme il est catholique et qu'il y a des Stuarts protestants, on se dit, bon, ce sera un malentendu, on va les laisser faire leur truc et on verra plus tard. Problème, énorme problème. Marie Stuart, Marie II du coup, meurt sans héritier. Sa sœur Anne, qui lui succède, meurt sans héritier en 1714. Et donc on se retrouve avec plus de Stuarts protestants, seulement des Stuarts catholiques. Et plutôt que de se dire on va reprendre les Stuarts, on va leur demander si gentiment ils peuvent se reconvertir pour peut-être prendre le trône, on va aller chercher une Allemande, Sophia de Hanovre, qui meurt avant Anne, donc qui ne sera pas reine d'Angleterre. C'est son fils, le futur George Ier d'Angleterre, qui prendra le trône d'Angleterre à la place.
Ah ouais, donc le truc qui vient de loin.
C'est ça. Donc 1714, c'est ce qu'on appelle la succession Hanovre. C'est comme ça qu'elle est désignée dans les livres d'histoire. Énorme problème quasi immédiat. Et on a une première révolte pro-Stuart en 1715 qui suit directement cette succession. Voilà, et c'est de là que naît le mouvement jacobite.
Eh bien justement, voilà. Très bonne transition. Oh là là, comme t'es fort.
Je sais.
Raconte-nous, on va beaucoup effectivement parler... Alors, c'est jacobite et jacobinisme.
Alors, jacobitisme, le jacobinisme, c'est en rapport avec la Révolution française. On n'est pas du tout dans cette thématique-là. C'est deux mots qui sont très proches et qui n'ont absolument rien à voir, en fait.
Donc, nous, on a le mot avec le T dedans.
C'est ça.
Jacobitisme.
C'est ça.
OK, donc c'est quoi le jacobitisme ?
Alors, le jacobitisme, c'est une idéologie qui est extrêmement vaste. Donc, on va essayer de faire quelque chose de relativement concis pour expliquer au mieux. Ça vient de Jacob, qui veut dire Jacques en latin, c'est-à-dire que c'est les supporters, on va dire, de Jacques II, celui qui s'est fait gentiment virer du trône d'Angleterre parce qu'il était catholique. Donc on a tout ce mouvement qui se crée autour de sa personne et ensuite, au fur et à mesure des années qui passent, de ses descendants. Donc être jacobite, c'est vouloir que les Stuarts reprennent la place des Hanovre sur le trône
d'Angleterre. Pourquoi ils n'ont pas dit le Stuartisme, ça aurait été mieux. Enfin bref,
c'est un petit peu plus compliqué à prononcer. Et c'est tellement plus stylé d'avoir un nom latin qu'un nom écossais, je pense. Peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu élitiste dans
l'histoire.
Mais
c'est si loin pour le latin. Enfin bref, pardon. Donc oui.
Et il s'agit non seulement de vouloir qu'ils reviennent sur le trône, mais il y a tout un pendant anti-union, donc la fameuse union de 1707, c'est-à-dire qu'il y a une énorme partie... Pas la totalité, mais il y a une grosse partie des jacobites qui souhaitent non seulement retrouver les Stuarts, mais retrouver leur indépendance en tant que pays avec un parlement.
Ah oui, donc c'est vraiment quelque chose propre à l'Écosse.
C'est
en
ça.
Fait,
alors, en sachant qu'ils touchent aussi des Anglais, surtout des Anglais du Nord, type Manchester, Sheffield et autres villes, pas industrielles encore, mais qu'on connaît aujourd'hui comme villes industrielles, et les Irlandais aussi, pour des raisons évidentes, c'est qu'on les connaît même encore à notre époque, c'est quasi d'actualité. Les Écossais et les Irlandais, la relation avec la couronne d'Angleterre, c'est un peu l'ex toxique. Voilà.
On le voit en rugby que clairement, on est content quand les Anglais perdent.
C'est ça, c'est quand l'Europe, on veut juste pas que l'Angleterre gagne. Voilà, c'est pour ça, c'est juste pour ça. Donc voilà, c'est évidemment ça naît de cette affection. C'est vraiment important ça sur le coup, l'affection qu'on a pour la famille Stuart. C'est à la fois politique, à la fois religieux, parce qu'il y a cette histoire de catholicisme, protestantisme, etc. Très culturel. Et en même temps, on a cette loyauté, ce truc un peu presque familial, quoi, se dire mais c'est notre famille royale et pourquoi est-ce qu'elle est là-bas alors qu'elle pourrait être là tranquille en Angleterre à gouverner, ils existent, pourquoi ne pas les reprendre. Et ça naît assez tôt, mais ça explose, on va dire, en 1715, du coup, à la première révolte jacobite, qui échoue lamentablement et qui donnera lieu à une autre, celle de 1745, qui nous intéresse en particulier aujourd'hui.
Et justement aussi, pour faire une petite comparaison, à l'époque, en France, il se passe quoi, juste pour qu'on ait un petit peu ça en tête?
Alors, à l'époque, c'est Louis XV qui est roi de France. Donc, pour rappel, 1715, il était encore tout petit. Donc, c'était sous la régence que l'histoire avec les Écossais s'est développée, on va dire.
Oui, c'est vrai.
Parce que, en fait, c'est pas qu'on l'oublie, mais on a tendance à pas trop parler de la relation franco-écossaise, mais elle existe, elle est même très forte. Même si, entre 1715 et 1730, on a l'alliance franco-britannique qui empêche un petit peu les Français d'agir contre leurs poteaux, les Anglais. Enfin, voilà, c'est assez compliqué. En 1730, ça éclate totalement. Et donc, au milieu des années 1740, on commence à réentendre du bruit écossais un peu dans le fond, là, on se dit « Ah tiens, contre les Anglais, bah, let's go, ouais. » En vérité, c'est un peu plus complexe que ça. Enfin, il y a plein de même des légendes sur l'or que Louis XV aurait dû filer au Stuart, mais en fait, il l'a pas donné, je sais pas quoi. Enfin, c'est un délire. Si vous avez regardé Outlander, il y a toute une storyline sur l'or de Louis XV.
Ok.
Donc voilà. Mais voilà. Et en 45, donc ça fait déjà 2 ans que le cardinal de Fleury n'est plus, est mort, quoi. Donc il gouverne plus parce qu'il est mort, le pauvre. Cardinal de Fleury qui n'était pas trop pro-jacobite, il disait oh non, ils font un peu de bruit pour rien, ils sont très idéalistes, mais on peut pas trop s'appuyer sur eux, ils ont pas de ressources, ils ont pas de moyens militaires, on va les laisser tranquilles, on va pas trop voilà quoi.
Du calme et debout là.
C'est oui, voilà, c'est un petit peu ça. Surtout que encore une fois, l'Écosse recluse, elle est aussi très peu connectée à l'Europe, on va dire continentale. Donc c'est quand je dis du bruit, c'est vraiment c'est des chuchots dans le coin, quoi. C'est pas dramatique. En sachant que j'ai oublié de préciser ce petit détail important, relation franco-écossaise. Quand Jacques II est évincé de son trône, c'est en France qu'il trouve refuge. C'est Louis XIV qui l'héberge et qui le laisse rester au château de Saint-Germain-en-Laye pendant très longtemps.
Ah oui, donc il y a vraiment des liens plus fort
qu'on pense. La cour Stuart est restée à Saint-Germain pendant jusqu'en 1731, si je ne m'abuse. Et ensuite, il a dû se réfugier en Italie sous la coupole, littéralement, la coupole du pape catholique, du coup, qui le protégeait parce qu'il était catholique.
D'accord, écoute.
Voilà.
Ouais, maintenant qu'on a le contexte historique qui est un peu plus clair, et encore, on essaye, hein.
On essaye, c'est pas facile.
On va essayer de raconter la vie de Lady McIntosh. Alors, on va essayer de faire ça chronologiquement pour qu'on suive bien l'évolution de sa vie. Alors, déjà, dans quelle famille est-ce qu'elle est née? Quand? Elle est plutôt issue de quel niveau social?
Anne Farquharson, née du coup dans la famille Farquharson. Donc c'est un clan écossais, comme on les aime. Donc nous, on les connaît un peu de façon romantique. Ce délire de « il y a le grand chef, il y a les autres en dessous qui l'aiment beaucoup, qui restent avec lui », tout ça. C'est vraiment comme ça que ça se passe, si ce n'est que c'est un peu plus complexe que ça. Mais enfin, voilà. C'est un clan, c'est une organisation, ça date du XIIIe siècle, mine de rien. On pense que c'est ancestral et en fait pas trop. C'est un mix entre les traditions un peu tribales du nord des îles britanniques et de tout ce qui est une tradition plus féodale.
Oui, c'est ce que j'allais dire, très anglo-saxonne. Au seigneur avec leurs suzerains et tout ça.
En fait, c'est un moyen pour la couronne au XIIIe siècle de s'assurer que son autorité arrive jusqu'au fin fond des Highlands. Ça paraît bête, mais en fait, on rigole, mais pendant ce temps-là, ceux du Nord, ils savent pas trop ce qui se passe dans les capitales et tout ça. Et donc, on décide d'organiser ces, enfin, c'est des entités politiques, hein, finalement, dire « je te donne des terres ». Une maison et des gens qui vont l'entretenir, etc. En échange, tu t'assures que mon autorité est connue et respectée par les gens qui répondent à ton autorité, à toi. Donc vraiment, c'est un outil royal, en fait, hein, de base. Ça existe encore au XVIIIe siècle, de moins en moins. Ça fait déjà presque 2 siècles que ça commence un peu à décliner, on va dire, en termes de loi, de légitimité, d'autorité. C'est de moins en moins efficace, mais c'est encore très proéminent dans les Highlands. Et surtout dans cette zone d'Ireland, puisque Anne Farquharson, elle naît dans le comté d'Aberdeen. Donc c'est vraiment, on part du nord de l'Écosse. Maintenant, c'est plus trop considéré comme les Highlands, parce que la carte est redessinée. Mais à l'époque, c'est très pertinent de dire que McIntosh, c'est une Highlander, en fait, telle qu'on les connaît. Et son papa n'est nul autre que le chef des Farquharson. Donc à son échelle, c'est un peu une petite princesse, finalement. Hein. La fille du chef, c'est voilà, la femme la plus noble, après sa maman, évidemment, la femme la plus noble du clan. Et elle représente, au même titre que ses frères et sœurs et que sa maman et que son papa, elle représente son clan, avec les couleurs et les motos et tout ce qui
les
va
motos.
Avec. Les devises, pardon.
Pardon.
pas les motos qu'on conduit, parce que ça n'existait pas encore, évidemment.
J'imagine en mode Johnny Hallyday avec les motos.
Ah, ça va avec le tartan, hein, ça fait un petit look un peu punk.
Pardon. Oui, c'était évident, mais en fait, j'ai eu vraiment l'image de
mais
okay.
Oui, bien sûr. Non, les devises, oui. Chaque clan a sa devise et du coup, on agit en conséquence, évidemment.
D'accord, donc elle naît, c'est ça, en 1723.
Oui, c'est ça, 23, d'après la plupart des sources. Il y a quelques sources qui citent 1721, mais c'est pas très pertinent, enfin, pas très logique par rapport aux années de naissance de ses frères et sœurs, du mariage de ses parents, tout ça. Donc 1723, ça me semble être l'année la plus logique, on va dire, pour sa naissance.
Et est-ce qu'on sait des choses sur son éducation, sur comment elle grandit ?
Alors, pas sur elle en particulier. Par contre, c'est facile, avec les ouvrages qui ont été écrits sur l'éducation des filles de l'époque et de la zone géographique en général, de se faire une idée de ce qu'a été son éducation.
On a ce genre d'écrit pour l'époque.
Absolument. Il y a pas mal d'ouvrages. Bon, ça date des années 70, évidemment. L'histoire des femmes, surtout en Écosse, on ne s'intéresse pas trop à ça avant les années 70, voire 80-90. C'est assez tardif. Il y a Bridget Hill en particulier qui a fait un travail phénoménal.
Là, tu parles de 1900, là.
Oui, pardon, ouais. Oui, 1970. Oui, les 18e siècle, 19e siècle, ils n'en avaient pas grand-chose à faire des femmes, malheureusement. Donc voilà, c'était levé de vœux. Dans les livres d'histoire, on n'en parlait pas énormément et encore moins de la façon dont elles étaient élevées et éduquées.
Donc ça a été étudié depuis les années 70.
Ouais, c'est ça. Ça commence en 70. Les premiers vrais ouvrages, on va dire sérieux, exclusivement concernés par ce problème-là, c'est plutôt fin 80, début 90. Et ceux qu'on préfère utiliser maintenant, c'est fin 90, début 2000, voire 2010. Enfin voilà, c'est très 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 récent. Surtout, encore une fois, les Highlands, de par leur qualité un peu outsider dans toute cette histoire. Voilà, les femmes des Highlands n'ont pas été documentées de façon très consistante, on va dire. Anne McIntosh, elle a la chance d'être la première fille. Donc ça veut dire que tous les espoirs de la famille reposent sur elle. Il faut qu'elle trouve un bon mari, voilà, faire rayonner son clan dans un autre, parce que c'est ça en fait, hein, finalement, quand t'es la fille du clan du chef, tu emportes un peu des valeurs de ton clan de naissance avec toi. Donc il s'agit vraiment d'être belle, de bien parler, d'être polie, d'être relativement intelligente, mais pas plus intelligente que les hommes autour de soi, évidemment. Donc on apprend les maths, mais c'est pour compter les ingrédients qu'on doit acheter pour le foyer, etc. On apprend à lire la Bible, on apprend à écrire des lettres à ses copines. Enfin voilà, tout ce qu'on apprend quand on est quelqu'un comme Anne McIntosh, et même les femmes un peu moins favorisées, on apprend à être une future femme, une future épouse, une future chef de maison et une future maman.
Ça suffit, j'en ai vraiment assez, cette fois tu exagères.
Vous êtes la seule à vouloir
tu que... Tu les as tous embarrassés, tu m'as embarrassée, moi.
J'ai suivi le
tu
règlement.
Tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait.
Vous ne vous souciez jamais.
Les conséquences seront catastrophiques si tout ne rentre pas dans l'ordre.
Est-ce que vous pouvez m'écouter?
Non, je suis la reine. Alors c'est toi qui vas m'écouter.
Oh, tout ça est vraiment trop injuste.
Injuste?
Vous n'êtes jamais là pour moi. Cette histoire de mariage n'intéresse que vous. Je ne serai jamais comme vous.
Tu es une princesse. Et j'aimerais que tu te comportes comme telle.
Bon là, j'ai pas pu résister. J'ai mis un extrait du dessin animé Rebelle. Parce qu'il y a quand même beaucoup de similitudes. Alors, on n'est pas dans la comparaison scientifique exacte. Hein, vraiment, là, on dit ça un peu comme ça. Mais en fait, là, une fille de clan McIntosh et son éducation, oui, on en parle un petit peu, en fait.
Un petit peu, oui. Bah, c'est la figure de sa maman qui la force à se tenir bien, savoir chanter, savoir réciter ses poèmes et tout. C'est vraiment ce genre d'éducation dont a sûrement bénéficié Anne McIntosh avant d'être mariée, finalement.
Est-ce qu'on sait à quoi est-ce qu'elle ressemble physiquement ? Est-ce qu'on a eu des portraits d'elle ?
Alors, il en existe, à ma connaissance, trois vraiment fiables. Celui qui est en couverture de mon mémoire, qui est c'est une gravure qui nous reste d'un portrait de Alan Ramsay, qui est un des plus grands portraitistes de son époque, qui a peint à peu près toutes les écossaises possibles et imaginables du XVIIIe siècle, tellement il était prolifique. Il y en a un qui était accroché dans la maison des McIntosh. Je ne saurais pas vous dire s'il y est encore, mais une des autrices avec qui j'ai discuté l'a vu et m'a dit qu'il était magnifique. Et un autre, je ne sais plus trop où il est, qui est beaucoup plus dramatique. Enfin, là, une pose André Rose dans Titanic, habillée, évidemment. Il ne faut pas rigoler, mais l'idée, le mood est très similaire, on va dire. Aucun des trois portraits ne se ressemble.
Ah ouais ?
On dirait trois personnes différentes. Donc déjà, ça nous avance bien, quoi. C'est déjà, rien que là, on part sur un truc... On ne sait pas à quoi elle ressemble.
C'est compliqué de saisir son image.
C'est ça. Par contre, ce qu'on a, c'est les témoignages des gens qui l'ont vue, qui répètent à qui veut l'entendre qu'elle était sublime. C'était une femme d'une grande beauté. Et comme dirait Maggie Craig, avec qui j'ai beaucoup parlé, qui a écrit un livre sur les femmes jacobites, donc en fait, c'est un peu la référence en Écosse sur les femmes jacobites, elle m'a dit Anne McIntosh était une belle femme qui savait qu'elle était belle.
Ah.
Et a priori, du coup, qui aurait pu avoir tendance à utiliser cette beauté et ses charmes pour gérer.
Franchement,
un peu...
on fait avec ce qu'on a, elle a raison.
Ouais, elle a bien raison. Hein. Franchement, si j'étais aussi belle qu'elle, peut-être que je ferais ça aussi.
Mais voyons. Bon, alors, du coup, avec sa beauté et tout ça, elle se marie assez jeune, c'est ça ?
C'est
et
ça.
Avec qui et pourquoi ?
Alors, elle se marie à 17 ans. Quelques jours avant son 18e anniversaire, en février 1741. Assez fréquent de se marier aussi jeune quand on est dans une situation comme ça. Elle se marie avec nul autre que le chef du clan McIntosh. Donc on y arrive enfin.
Donc elle était dans le clan...
Farquharson.
Farquharson, ouais.
Et elle se marie avec le chef McIntosh. À savoir que le chef McIntosh est aussi un plus grand chef, parce qu'il est chef de ce qu'on appelle le clan Chatham, qui est une confédération de plusieurs clans qui se réunissent parce qu'ils ont des intérêts communs. Enfin, bref, c'est toute une histoire qu'on ne va pas raconter aujourd'hui. On n'a malheureusement pas le temps. Et les Farquharson en font partie.
Donc en fait, elle monte en niveau social là, avec
elle
ce mariage.
Elle monte énormément au niveau social, déjà parce qu'elle passe de fille à épouse. Donc déjà, rien qu'en termes de statut féminin, on part sur une évolution. Et en plus, oui, elle épouse en fait le chef de son père, finalement.
Oh, ah ouais,
donc
la classe.
Voilà, c'est un peu stylé, quoi. Elle était princesse et maintenant, elle est impératrice, en gros. Enfin, pour avoir une comparaison un peu plus d'autre échelle, c'est un peu l'idée. En sachant que le chef, donc Angus McIntosh, il a près de 20 ans de plus qu'elle.
Ah ouais.
On estime qu'il est né en 1701. Donc entre 10 et 13 ans avant la naissance de Anne. Et en fait, il n'était pas du tout censé devenir chef, parce que lui, c'est le frère de l'ancien chef, qui lui-même était le cousin germain de l'ancien chef. Truc, enfin...
Ah ouais, donc il y a eu...
Les morts un peu, tu sais, alors, ah mince, il tombe malade, il n'a pas de fils, comment on fait ? Ah bah, il ne reste plus que le cousin de l'autre, bon bah vas-y, on prend lui et tout. Et en fait, il se retrouve chef, il a 40 balais, il ne sait pas trop ce qu'il fout là. Lui, il était soldat, comme beaucoup de jeunes hommes dans sa situation, qui ne sont pas censés recevoir de terre, de titre ou quoi que ce soit. Bon bah, il part à l'armée, quoi. On estime qu'il y a un tiers de l'armée britannique qui est en fait issu de la noblesse entre guillemets, enfin de la haute classe, de la bourgeoisie écossaise.
D'accord, ouais, donc là, il est devenu chef, il a trouvé cette épouse parce qu'il lui fallait une épouse.
C'est ça, il a dit oh mince, faut qu'on se dépêche parce que là après lui il n'y a plus personne en fait, hein. c'est la dernière carte du jeu des McIntosh, donc il lui faut une épouse et il lui faut des enfants, ça devient important.
Donc ça tombe bien, il y avait cette petite princesse qui était très bien.
Il y a la fille Farquharson qui est là, qui attend, qui a 17 ans, qui est sublime, qui est sûrement très intéressante à écouter parler, qui joue de la musique, qui danse, tout ça. Bon vas-y, ok, on part sur ça en fait, hein, faut pas se mentir. Il y a beaucoup de gens qui adorent romanticiser leur histoire, mais enfin j'y vois, enfin honnêtement, oui, je vois peu de place à la romance dans cette affaire.
Oui, de ce que tu me dis, c'était surtout bon, ça tombait bien.
Une jolie transaction comme on les aime pour s'assurer que les McIntosh allaient avoir des enfants, quoi.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que on pourrait s'attendre à ce que elle ait son rôle de femme au foyer, mais en fait, elle va pas vraiment avoir une vie de femme noble au foyer calme, parce que on va voir que on en a pas tout à l'heure, le contexte politique va pas mal influencer sa vie.
Ah, très très jeune, parce que son père est un héros de la première révolte dont on parlait, celle de 1715. Il a failli se faire assassiner. Enfin, c'est toute une histoire. Donc elle grandit dans ce foyer où on a un héros jacobite qui entretient très probablement la fidélité à la maison Stuart, même si c'est en fait quasi illégal. Maintenant, le roi, c'est Léanovre, on parle plus des Stuart, quoi. C'est trahison de faire ça. Mais il n'empêche que, voilà, familialement, il y a cet héritage-là. Les McIntosh, historiquement, sont aussi pro-Stuart. Ils étaient aussi dans la révolte de 1715, tout ça. Et là, elle se retrouve avec un mari dans l'armée britannique, donc qui sert le roi Hanovre, et qui, a priori, n'a pas l'intention de le trahir du tout. Mais genre pas du tout.
Ok.
Donc elle se dit, bon, c'est pas grave, après c'est pas trop la révolte, il n'y a pas besoin de se... Enfin, comment dirais-je, de se tracasser d'allégeance ou d'alliance et tout. Moi, je vais juste sur ma petite vie tranquille. On peut s'imaginer qu'elle est un peu frustrée de pas pouvoir toaster au Stuart ou quoi que ce soit, parce que c'était un peu le rituel pour le dîner de trinquer à la santé du Stuart. Bon, elle s'habitue tranquille. Et puis après, arrive du coup 1745, où le petit-fils de Jacques II, le prince Charles-Édouard Stuart, qu'on connaît parce que c'est Bonnie Prince Charlie, et il est dans Outlander et dans plein d'autres trucs. Et
d'accord, ouais,
cool.
Dans la série Outlander, ouais.
C'est celui qui dit, bon, il est temps de recommencer à se révolter. Parce qu'il y en a...
Révolte, on y retourne.
On y retourne. Et donc lui, il débarque en Écosse depuis la France, en 1745. Et Anne, elle dit, chouette, c'est le moment de voilà, mettre un peu ses sympathies Stuart à l'épreuve et d'y aller. Et elle regarde son mari, elle dit, c'est bon, on peut y aller, on peut y aller. Et lui, il dit non.
Ah,
il dit non, en fait c'est un peu dangereux parce que je sais pas si tu te rappelles, la dernière fois on s'est fait éclater, okay. Hein, pour être honnête, enfin voilà, ça partait bien mais ils se sont fait éclater. Et puis moi en fait c'est pas un seul clan, hein, c'est une dizaine de clans qu'il y a sous mon truc. Donc en fait si moi je me foire et que je suis un traître à la couronne, vous mourrez tous et vous êtes beaucoup quand même. Donc c'est un peu dangereux et puis les terres et puis la thune. On a dit bah d'accord mais les Stuarts quand même, enfin non.
Et puis il a 40 ans, il est posé, il vient d'être chef, il dit bah
il
non,
est ça
en fait,
c'est ça, c'est qu'il est chef depuis 4 ans, il a un peu peur quoi, il a un peu peur de perdre l'équilibre qu'il essaie de redonner à son clan et tout, et surtout il a peur de se faire exécuter parce que encore une fois c'est de la trahison que de prendre le parti des Stuart.
Et comment est-ce qu'elle réagit alors Anne?
Alors, c'est là que la dissonance commence. L'histoire, on va dire, la plus neutre possible qu'on peut raconter, c'est qu'elle décide qu'elle s'en fiche et que les McIntosh se battront quand même du côté des Stuarts. On a ce régiment qui se fait soulever d'une manière ou d'une autre. On parle d'entre 300 et 600 personnes selon les sources, enfin 300 et 600 hommes de ce régiment, qui va jusqu'à la fin, hein, qui va jusqu'à la fin de la révolte, et voilà, qui est une partie intégrante de l'armée jacobite pour 1745-1746, parce que la révolte se tient jusqu'en avril 1746.
Oui, donc sur une période assez courte, en fait.
C'est ça. A priori, elle, ces hommes, ils sont disponibles à fin décembre, début janvier, en fonction de en fonction des versions, mais c'est pas assez documenté pour qu'on puisse être assez précis. Mais enfin voilà, ils arrivent assez tôt et ils sont importants et ils sont utiles et tant mieux. La question c'est, est-ce que c'est elle qui a décidé?
Oui, c'est ça, ouais.
Il y a certains historiens qui disent que son mari, comme il vient d'une famille jacobite, on peut se dire que certes, il choisit le côté Hanovre par sécurité, mais que sa loyauté Stuart existe et que du coup, il envoie sa femme faire le travail jacobite sans se mouiller lui. Et en fait, c'est a priori une technique qui est utilisée par pas mal de chefs de clan à l'époque, c'est de se dire que peu importe ce qui se passe, peu importe qui gagne, il y a au moins un de nous qui est du bon côté. Et donc l'honneur du clan est sauf, et les membres du clan sont saufs aussi.
Donc c'est-à-dire que beaucoup de chefs de clan envoient leurs femmes ?
C'est ça. De manière différente, mais a priori, il y a beaucoup de femmes jacobites qui étaient jacobites soit parce qu'elles suivaient leur mari, soit parce que leur mari voulait pas trop se mouiller et donc envoyait leur femme à leur place.
Donc en fait, Anne n'a peut-être pas été la seule, dans ce cas-là, à devoir diriger une armée, à devoir diriger des groupes, en tout cas de donner l'impulsion.
C'est ça. Anne n'est sûrement pas la seule à avoir été à l'origine, comme tu dis, du soulèvement de son clan pour les Stuarts. La différence avec Anne, a priori, c'est qu'Anne, elle a un rôle beaucoup plus militaire que les autres femmes jacobites. Il y a une thèse merveilleuse d'une Australienne qui date d'il y a quelques années, qui a fait une grille de lecture sur la nature du jacobitisme des femmes pour 1745-46. Donc c'est de se dire qu'il y en a qui sont très, très domestiques, en fait, qui restent dans leur sphère attitrée, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer des lettres, cuisiner, fabriquer des vêtements, envoyer des vivres, des munitions, un peu gérer, enfin voilà, management finalement, management de bataille, très féminin. On a d'autres qui vont marcher avec leur mari ou avec leurs hommes si leur mari n'est pas là, mais qui restent, pareil, du côté très féminin, donc faire à manger encore une fois, penser des blessures, accommoder des vêtements, nettoyer...
Être dans la logistique, en fait.
C'est ça, en fait. Dans un peu les femmes de l'ombre, hein, comme on les connaît, enfin, c'est un thème assez récurrent pour le militarisme féminin, on va dire. Anne se distingue parce qu'il y a énormément de témoignages qui disent l'avoir vue non seulement armée, mais aussi à cheval, Et même certains qui disent c'est elle qui s'est bougée. C'est elle qui a dit ok, on va aller dans toutes les terres qui appartiennent au clan Chatan, du coup. Donc c'est, on parle vraiment d'une zone assez étendue. Et qui a dit, est-ce que tu veux, s'il te plaît, bien te battre pour les Stuart? Certains témoignages disent même qu'elle aurait menacé, wow, grâce à deux magnifiques pistolets qui n'y appartenaient visiblement pas, menacé ses locataires, hein, ses tenants, comme on dit, de venir se battre, sinon conséquence. Donc voilà. C'est là, en fait, comme je disais, que la dissonance commence, c'est qu'on ne sait pas trop précisément quel rôle elle a eu pour le soulèvement de ce régiment. Est-ce qu'elle était à sa tête officiellement ou pas du tout?
Mais donc on peut dire que quand même elle a été assez active, même si on ne sait pas précisément ce qu'elle a fait.
Très active, à tel point qu'un de ses surnoms c'est Colonel Anne. C'est dans la postérité, et même d'ailleurs quand elle est encore en vie, on l'appelle comme ça dans certaines correspondances, dans certains magazines ou autres. Enfin voilà, dans la presse, ça fait partie des surnoms qu'on utilise pour la désigner. Officiellement, c'est pas elle la colonelle, parce qu'en fait, spoiler alert, c'est une femme et elle n'a pas le droit. L'armée est exclusivement masculine à l'époque, évidemment. Donc elle place un de ses cousins, qui fait aussi partie du clan Chatan, donc de la confédération qui est sous l'autorité McIntosh. Elle place ce type-là, Alexander McGillivray, à la tête du régiment, pour dire, vous en faites pas, c'est un gars. Sur certaines listes militaires qui dénombrent les membres de ce régiment, parfois Alexander McGillivray est considéré comme colonel McGillivray, parfois comme lieutenant-colonel McGillivray, admettant du coup la place à un supérieur,
mais qui n'est pas mentionné.
Qui serait en fait Anne McIntosh en tant que colonel, donc c'est-à-dire sa supérieure militaire directe.
Et donc comment se passe la révolte? Là on imagine que donc les clans sont mobilisés, c'est bon, let's go, parce que là tu nous as dit le clan là, celui-là, il n'y a que 500-600 personnes, j'imagine qu'il y avait un peu plus de monde dans cette révolte, parce que sinon ils vont pas être très loin.
On parle de milliers, hein, de milliers d'Écossais, d'Irlandais et de Français aussi, hein. Il y a des Français qui sont envoyés, dont un
tous contre les Anglais,
oui vraiment c'est merveilleux, dont le marquis d'Aiguille qui a laissé des mémoires derrière lui, qui parle beaucoup de cette période qu'il a passée en Écosse aux côtés des Stuarts et des Jacobites.
Le fun,
trop bien, vraiment. Je vous conseille cette lecture, c'est des lettres au ministère des Affaires étrangères depuis sa prison, où il dit « Oh là là, ces foutus Écossais, la merde dans laquelle ils m'ont mis, franchement, ça se fait pas. » Bref, c'est super intéressant. Mais bref, tout ça pour dire que oui, effectivement, ils sont assez nombreux pour gagner quelques batailles, dont Preston Pans en septembre 45 et Falkirk en janvier 46, et assez nombreux pour réussir à envahir alors tour à tour Inverness, donc la capitale des Highlands, Édimbourg, capitale de l'Écosse, Derby, Manchester, d'autres villes anglaises. Ils arrivent à Londres et ils font demi-tour.
Quoi ?
Charles-Édouard dit « Non, c'est trop risqué. Mais on n'y arrive pas. » Parce qu'en fait, jusqu'ici, ils avaient la chance d'avoir une armée britannique absente qui est trop occupée sur le continent à gérer les guerres de succession autrichiennes.
Ah oui, parce que oui, ils sont mobilisés à la guerre.
Ils sont en train et ils prennent pas du tout la menace jacobite au sérieux, en fait, au début. Et quand les bougs, ils commencent à arriver en Angleterre et à foutre un peu leur petit bazar, peut-être qu'il s'agirait de rentrer et faire en sorte que ces individus ne compromettent pas la vie de notre souverain, finalement. Et donc, quand ils arrivent à Londres, quand les jacobites arrivent à Londres, beaucoup d'effectifs britanniques sont déjà rentrés en Angleterre, prêts à en découdre, et Charles-Édouard a trop peur. Il a trop peur et il dit « Non, on ne peut pas y aller, c'est pas possible. » Certains de ses conseillers sont d'accord, d'autres ne sont pas d'accord, mais dans tous les cas, c'est le prince. Même s'il n'a pas de titre, entre guillemets, officiel, politique, il n'empêche que c'est un Stuart, c'est le petit-fils de Jacques II, donc il est prince. Et pour les jacobites, c'est leur prince, c'est leur futur roi.
Bah, en soi, il a peut-être évité un bain de sang.
Peut-être, ou peut-être qu'ils auraient repris Londres et que George I se serait fait décapiter et que les Stuarts seraient redevenus rois, et du coup, bref, il se serait passé beaucoup de choses. Mais oui, bien sûr, il y a cette possibilité qu'il ait évité de se faire éclater là.
Et donc, comment réagit Anne à ce changement, à se dire non, on rentre?
Alors, Anne, son régiment ne descend pas en Angleterre. Il rejoint l'armée jacobite quand ils sont remontés, donc quand ils sont de retour en Écosse, comme je disais, fin décembre, début janvier, avant la victoire de Falkirk, dont je parlais tout de suite. Donc, c'est la première vraie bataille, a priori, à laquelle les McIntosh, le régiment McIntosh aurait pris part. Donc, elle réagit, a priori, je pense qu'elle est un peu vénère, parce que j'ai le sentiment qu'Anne McIntosh, c'est ce genre de personnalité. Si elle vivait aujourd'hui, on dirait qu'elle était woke. Tu vois ce que je veux dire?
Ça veut dire.
C'est-à-dire qu'elle est là, c'est une femme, à l'époque, elle a 22, 23, ça dépend des sources, mais enfin voilà, elle est en début de sa vingtaine, son mari est franchement chiant et vieux, enfin voilà. Elle est là, elle voit l'espoir qui renaît avec les Stuarts qui débarquent, enfin le Stuart qui débarque et les Jacobites qui commencent à se rassembler autour de lui et se dit oh trop bien, c'est l'occasion et tout et tout. Personnellement, je suis cette personne-là et on me dit ton prince là, il vient de partir de Londres parce qu'il a les boules, j'ai les boules aussi quoi. Je me sens un peu. Peut-être que ça a accéléré le mouvement du coup de son recrutement, qu'elle s'est dit « Ok, ils ont besoin de plus de monde, ils ont besoin de nanana ». On ne sait pas trop, parce que malheureusement, Anne McIntosh n'écrivait pas beaucoup, donc on n'a pas énormément de sources de sa part, en tout cas, pour corroborer quelques versions que ce soit. Mais dans tous les cas, son régiment arrive dans le nord de l'Écosse à ce moment-là.
Et comment ça se passe du coup après, quand il rentre ?
Quand il rentre, c'est l'hiver. L'hiver écossais du XVIIIe siècle.
Ouais.
Donc il y a une trêve. Une très longue trêve de plusieurs mois. Parce qu'il fait vraiment trop froid. Enfin voilà, c'est trop compliqué de se faire la guerre en gros quoi. Donc les deux parties sont d'accord pour se dire que c'est mort quoi. On va attendre un peu. En attendant, les Anglais, ils ont repris certaines villes, dont Édimbourg et Inverness. Enfin voilà, il y a de nouveaux échanges militaires qui se font. Et c'est là qu'on arrive à ma partie préférée. On arrive à février 46, le 15-16 plus exactement. Et ça, c'est une anecdote d'une saveur. Elle est extraordinaire. Et là aussi, il y a beaucoup de dissonances. Et c'est en lisant sur cet événement-là en particulier que je me suis dit il y a un énorme problème historiographique qu'il faut creuser. Parce qu'en fonction de qui on lit, on a des versions complètement différentes de comment ça s'est passé. Le contexte, on va dire, plus très général est celui-ci. On est donc en février 46, dans les Highlands. Hein, là, toute l'action se passe dans les Highlands pour le restant de la rébellion qui dure encore 2 mois après ça. Anne McIntosh est tranquille chez elle, donc près d'Inverness, dans la maison McIntosh, la maison de son mari, pendant que son mari, lui, est dans son régiment à Nôvre, quelques kilomètres plus loin. Mais pas chez lui, parce que chez lui, c'est chez McIntosh, en fait. Enfin, c'est Anne McIntosh, a priori. C'est aussi l'endroit où se trouve Charles-Édouard.
Donc Charles-Édouard, le prince
Charles-Édouard Stuart, celui qui est un peu l'instigateur de cette rébellion, qui débarque au nom de son papa, parce que son papa est encore en vie, donc c'est lui qui serait roi.
Ah, oui.
Mais comme il est jeune et qui est lui aussi un peu vénère, à mon avis, c'est lui qui a pris un peu les choses en main et qui a dit « c'est bon, marre, on y va, quoi ». Bref, donc lui aussi se trouve à Inverness avec tous ses hommes, a besoin d'être logé, nourri et protégé. Et comme par hasard, qu'est-ce qui se passe ? Ah, la maison de Anne McIntosh est vide. Anne McIntosh est normalier de la cause jacobite. C'est connu, hein, c'est bon. Hein. Elle a établi son allégeance et ses actions et son rôle. Tout le monde est a priori au courant, quoi. Et donc, il frappe à sa porte, il reste chez elle, tranquille. Grand dîner. Il y a pas mal de relevés de compte qui suggèrent qu'elle l'a rincé. Enfin, vraiment, on parle de beaucoup d'alcool, beaucoup de nourriture, de la bonne nourriture. Et il y a un témoignage en particulier, le responsable des comptes, en fait, de Charles-Édouard, qui témoigne et qui dit qu'elle a préparé son dîner avec ses domestiques à elle. Donc, tout le foyer Stuart n'avait pas de travail, en fait, cette soirée-là. Et c'est vraiment un grand festin, la fête et tout. Donc, tout le monde bourré, hein, évidemment. Enfin, voilà, 18e siècle, on ne boit pas de l'eau, hein, ni du Fanta, d'ailleurs. Et après, on va se coucher. Et Dieu sait comment, en fonction des versions, hein, on apprend du côté de l'armée britannique que le prince Stuart, donc le prétendant, c'est comme ça qu'on l'appelle du côté britannique, que le prétendant est à Inverness. Le prétendant est à Moy, chez Anne McIntosh.
Ah, on apprend où il est, ouais.
Et là, ok, c'est parti. On y va, on prend nos hommes. Est-ce qu'il y a une récompense à la clé, hein, évidemment, hein. C'est le public numéro 1, donc si on le capture, c'est pas mal, quoi. On prend nos hommes et tout, on va le chercher. On parle de milliers d'hommes. Enfin, vraiment, c'est un truc de fou. C'est une armée entière qui commence à se déplacer et tout. On entend le bruit de l'armée britannique. On envoie un gamin à la maison. Attention, attention, les Anglais arrivent. Ah mince, comment on fait et tout. Et c'est là qu'Anne McIntosh rentre en scène pour de vrai. Anne McIntosh, elle pose ses ovaires sur la table, si je me permets. Elle calme tout le monde. Elle dit, il faut juste partir. Il faut y aller. Votre Altesse, il faut y aller. Sinon, vous allez être emprisonné, assassiné, exécuté, tout ce que vous voulez. C'est pas l'objectif du tout. Pendant ce temps-là, nous, avec ma sœur, on va aller cacher vos affaires. Et je vais envoyer mon pote, le forgeron, là, avec ses 5 potes. On va les envoyer sur la route et ils se démerdent. Ils trouvent un moyen de retarder.
Attends, à 5, ils vont arrêter l'armée anglaise ?
Je te jure que c'est vrai. Alors après, encore une fois, version, voilà, mais toutes les sources s'accordent à dire que 5 pélos des Highlands se sont cachés dans des buissons.
Après, 5 Écossais énervés.
Voilà, oui, 5 Highlanders énervés. On part quand même sur un capital férocité assez élevé. Bon, c'est des forgerons, mais vas-y, voilà. Ils se planquent dans des buissons avec des casseroles et des poêles et tout ça comme ça. Ils entendent...
Après, sans forgerons, ils ont peut-être autre chose que des casseroles, peut-être. Hein.
Et alors, beaucoup de versions parlent de batterie de cuisine. Donc,
ah,
a priori, ce serait la version la plus... Ils sont à dîner, tu vois, ils sont pas dans leur forge, quoi. Ils sont chez leur chef, en fait, parce qu'Anne McIntosh, en fait, c'est chef effectif, hein, pendant que son mari est ailleurs. Voilà. Leur chef leur dit, allez-y, ils sont chez elle, ok, on va prendre ça et on y va. Donc, ils sont 5 avec leur batterie de cuisine, ils se cachent dans des buissons, attendent que les Anglais arrivent, et quand les Anglais, quand ils les entendent arriver, ils commencent à taper de toute leur force dans leur poil, dans leur machin. En criant des noms de clans. Parce que militairement, un Highlander, avant de lancer une charge, ça crie le nom de son clan pour rassembler les membres autour de lui et lancer une charge. Tout ça pour faire quoi ? Pour faire croire aux Anglais qu'on parle sur plusieurs clans qui sont présents, prêts à en découdre encore une fois, pour protéger le prince Charles qui est coincé à Inverness. Les Anglais prennent peur, ils font demi-tour.
Mais non !
Il y a un cornemusier qui meurt, qui se fait tirer dessus. Le lendemain, désertion massive. Donc l'armée britannique prend un coup énorme parce que 5 mecs ont décidé de créer des noms de clans dont ils, auxquels ils n'appartiennent
c'est
pas
génial.
Avec des casseroles. Tout ça parce que le mec était chez Anne McIntosh et il a failli se faire choper, quoi. Donc on part sur un truc, enfin c'est quand même complètement
un effet papillon
stratosphérique. Et là encore, les avis diffèrent. Est-ce que Anne McIntosh a agi tout de suite ou est-ce qu'elle a fait la femme typique qui est rentrée en hystérie pendant 5 minutes et on lui a dit « Madame, vous êtes la chef SVP, donnez-nous des ordres ». Est-ce qu'elle a calmé tout le monde parce qu'elle a ce calme et cette expérience pseudo-militaire, cette personnalité qu'on lui connaît a priori parce qu'elle a soulevé un régiment toute seule, etc. etc. Est-ce qu'elle a absolument rien à voir avec l'histoire, mais comme c'était chez elle et que c'était la
on
chef...
On présume que c'est elle qui a fait ça.
Comme c'était la chef et la colonelle, etc., on se dit « Bon, on va dire que c'est elle qui a fait, et voilà ». Mystère et boule de gomme, vraiment, c'est un truc. J'ai lu une vingtaine de témoignages, que ce soit primaire ou secondaire, qui disent pas la même chose. Il y a deux personnes en particulier qui étaient présentes, qui disent pas la même chose alors qu'ils sont dans le même camp. Enfin, je veux dire, c'est absolument stratosphérique. Et là, je me dis, comment on fait pour écrire l'histoire d'une femme quand même les gens qui la connaissent sont pas d'accord sur l'histoire de cette femme? Comment on fait? C'est quoi l'objectif? Voilà, donc c'est là que le problème s'est vraiment posé pour moi à ce moment-là. Et après, du coup... On pense à un revers, du coup, à se dire, bon, bah, s'il n'y a plus trop de Britanniques, on va peut-être pouvoir tenter de reprendre Inverness, ils y arrivent. Plusieurs retours de bâton, encore une fois, mais très minimes par rapport à ce gros truc de une désertion tellement énorme que c'est trop facile, en fait. Il y a juste à marcher, à dire bonjour, maintenant c'est à nous. Il n'y a personne pour contrer quoi que ce soit, donc trop facile. Plusieurs petites victoires, défaites par-ci, par-là, mais rien de très, on va dire, de très intéressant au sens militaire du terme, quoi. Enfin, c'est vraiment du va-et-vient, limite un ping-pong militaire, enfin, un peu bête, quoi. Et on arrive ensuite à avril 1746, où là, tout le monde est un peu énervé, surtout les British. Ils en ont ras-le-bol, en fait, hein, les Anglais. Ils sont, c'est bon, enfin, c'est quand même pas les Écossais qui vont nous empêcher de gouverner correctement. Ça commence à bien faire. Et on connaît, je pense, de façon assez large, en tout cas en Angleterre aussi, c'est connu, évidemment, la bataille de Culloden, dont tu as peut-être déjà entendu parler.
Non, mais... pas du tout. Ouais.
Donc, c'est la dernière bataille, comment dirais-je, planifiée. Enfin, tu sais, c'est où il y a deux camps au même endroit et on est face à face. Et après, on
oui, c'est pas
à
improvisé, se... c'est vraiment.
C'est la organisé. Dernière bataille comme ça qui a été. Qui s'est déroulé sur le sol britannique. Après, il n'y en
Ever?
A plus eu du tout.
Ah ouais.
Après, c'était vraiment de la bonne vieille malice cachée dans les buissons.
D'accord.
Voilà. Pas du tout égal. Hein. Les Écossais sont pas nombreux. On est en avril, mais on est en Écosse, donc il fait encore très froid. Ils sont fatigués. On rappelle que les Français n'ont pas envoyé leur argent. Donc ils n'ont plus de bouffe, ils n'ont plus de munitions. Désertion aussi énorme, parce qu'on se rend compte qu'en fait, Prince Charles n'a pas vraiment de plan et qu'il fait un peu avec ce qu'il a dans les moments et tout. Il n'écoute pas ses conseillers quand on lui donne des conseils. Enfin bref, pas du tout les bonnes circonstances pour les Écossais qui malheureusement se font écraser. C'est un bain de sang magistral. Donc victoire britannique sur cette révolte-là aussi, qui donne lieu après à plein de conséquences sur le long terme. Il y a certains historiens qui parlent de génocide et j'aime pas trop ce terme parce que génocide c'est quand même très fort comme terme. Mais oui, il y a une haine de l'Écossais, une haine du Highlander qui se crée. Qui simplifie parce qu'elle existait déjà chez certains, évidemment. Et on part sur vraiment des petites exécutions par-ci par-là. On confisque les terres. C'est législatif aussi. Hein. Y a des lois qui sont passées. On n'a plus le droit de porter le tartan, de jouer de cornemuse. Un Highlander ne peut plus porter d'armes. C'est interdit. Alors qu'on est au 18e siècle. Enfin, je veux dire, tous les hommes ont des armes. Au moins des sabres ou des dagues ou des choses comme ça. Et en fait, c'est la fin. Et certains historiens considèrent que Culloden, c'est la fin du mode de vie des Highlands. Donc ce que nous, on romanticise beaucoup dans nos œuvres de fiction et tout ça, ça n'existe plus pour certains après cette bataille-là. Parce que les Anglais ont gagné et il est hors de question qu'on revive une révolte comme celle-ci. Donc pour éradiquer une révolte, on éradique les gens qui en sont à l'origine.
Et évidemment. La culture, oui.
C'est ça.
Et Anne McIntosh dans tout ça, parce que là, elle n'a que une vingtaine d'années.
C'est ça.
Encore, et elle va encore vivre une quarantaine d'années.
C'est ça.
Comment ça se passe pour elle?
Alors, elle est arrêtée chez elle. On vient la chercher après Culloden, du coup, donc en avril, mi-avril 46. Elle est emmenée en prison et elle fait sa diva. J'adore cette femme. Enfin, quand je vous dis que j'adore, c'est vraiment. Elle arrive comme ça, elle dit ok, il me faut une table, il me faut du thé, et je veux voir toutes mes copines qui sont en prison avec moi. Elles sont six femmes à Inverness à être
elles
arrêtées.
Elles n'avaient rien demandé.
Ouais, non, mais elles étaient jacobites. Il y a d'autres exemples. Hein,
ah oui, elles étaient déjà arrêtées. Ouais, c'est pas voilà, elle qui a dit ça. Je veux mes copines avec moi.
Bah en fait non, elles se sont retrouvées en prison. Elles ont dit bah très bien, on va faire un petit club et puis voilà quoi. Et il y a un officier britannique qui écrit une lettre à son frère et qui dit ah bah j'ai pris le thé avec Lady McIntosh. Elle est vraiment sympa. Dommage que ce soit une rebelle parce que franchement elle est cool et tout. Enfin voilà, elle en fait vendre de toutes les couleurs à tout le monde. Il y a une personnalité qui est assez connue de l'époque qui s'appelle, enfin son nom de famille c'est Holly, mais on l'appelle Hangman Holly, donc sous-entendu quelqu'un qui pendait tout le monde, qui était tellement énervé que la légende raconte qu'il aurait dit quelque chose du genre « J'ai tellement hâte de faire briser son cou avec une corde. »
Parce qu'elle était
traître.
Elle était censée être tuée.
Exécutée. Et en fait, non. Parce qu'elle était Macintosh, et elle était jeune et « Ah, mais franchement, ça va. » Finalement.
Et le fait que son mari soit resté fidèle, est-ce qu'il a pu jouer en sa faveur ?
On met un peu, j'ai l'impression, on met un peu le truc sur « Ah, Laird Macintosh, vous n'avez pas su contrôler votre femme », plutôt que « Ah, Lady Macintosh, vous êtes une traître ». C'est plus un truc comme ça, j'ai l'impression, qui se passe. Donc, au bout de 6 semaines, elle est relâchée. Elle est envoyée chez sa belle-mère, qui vit à, donc du coup, l'ancienne Lady Macintosh, qui vit à Inverness, qui vit en ville. Et après, plus beaucoup de traces d'elle.
Ah ouais?
Il y a une légende urbaine qui dit qu'elle aurait été à un bal avec des membres de l'armée britannique, dont le duc de Cumberland, donc un des fils du roi George II. Je dis George Ier depuis le début, c'est George II, pardon.
Ah oui, d'accord.
Et en fait, il semblerait qu'il ait invité Lady Macintosh à danser. Donc c'est quelques années plus tard, on part peut-être de 20-30 ans après, et qu'elle aurait dit oui à condition qu'on danse sur une musique écossaise.
Mmh.
Véracité ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas, cette légende, voilà, elle existe.
Est-ce qu'on sait si elle a eu des enfants ?
Elle n'en a pas eu, en tout cas pas qui ont survécu assez longtemps pour être documentés. Il y a une œuvre de fiction, un roman, bon, les romans des Highlands du XVIIe siècle comme on les connaît, avec ça y est, la couverture où on voit les seins de la femme et le torse de l'homme avec le kilt au vent et tout. Un truc un peu comme ça, écrit par un historien avec qui j'ai eu quelques discussions. Bon, voilà, je n'étais pas très convaincue de ses arguments, mais bref, passons. Tout ça pour dire que dans ce livre-là, il fait avoir une fausse couche à Anne Macintosh pendant la rébellion. À base de, c'est un élément trigger pour son engagement et son activisme, etc. Mais a priori, non, pas d'enfant qui survit assez longtemps pour être documenté.
Et pourtant, elle vit encore, elle vit jusqu'à 60 ans, on a peu d'infos sur elle.
Elle vit très longtemps, elle est veuve en 1760, si mes souvenirs
sont exacts. Ah oui, donc son mari a vécu longtemps aussi,
mais bon, leur écart d'âge fait qu'il avait à peu près le même âge qu'elle quand il est mort, mais du coup, 20 ans avant. Et la tradition veut... Enfin, en tout cas, d'après ce qu'on sait sur les veuves écossaises des Highlands de l'époque, qu'elle soit envoyée en ville aux frais de l'héritier de son mari, donc en l'occurrence son neveu, parce que du coup, pas d'héritier, donc évidemment, c'est pas sa descendance qui prend le relais du clan.
Ouais.
Ce qui, d'ailleurs, il y a une historienne qui a beaucoup travaillé sur les femmes d'Highlands qui dit que les veuves, en fait, elles saoulent un peu tout le monde, parce qu'elles coûtent beaucoup d'argent. Alors qu'elles ne servent plus à rien, parce qu'elles n'ont plus de statut, elles ne peuvent plus aller travailler. Pour celles qui travaillaient avant, elles n'ont plus d'enfants à faire, parce qu'elles n'ont plus de mari. Enfin, voilà, elles sont un peu là, comme ça. Un énorme fardeau pour ceux qui restent dans leur famille, en fait.
Ça me rappelle, alors, j'ai fait dans Passion médiéviste un épisode sur les veuves en Anjou, où on voit que, en fait, finalement, quand les femmes sont veuves, c'est là où on a le plus, finalement, de renseignements sur elles, parce que c'est là où elles ont le plus de pouvoir et elles sont le plus en action. Donc là, on était plutôt en Anjou au XIIIe siècle. Là, tu nous dis qu'en Écosse, au XVIIIe siècle, bah non, en fait, c'est plus
des
poids.
C'est totalement l'inverse. Pour Anne Macintosh, en tout cas, c'est le moment où elle devient veuve où on perd complètement sa trace. Et on sait qu'elle vit à Édimbourg parce que, voilà, elle est enterrée là-bas, donc on se dit qu'elle a vécu les dernières années de sa vie là-bas, etc. Mais alors, à partir de quand, où ça exactement, on sait pas trop. On sait que son neveu l'aimait beaucoup. Il parlait d'elle vraiment avec beaucoup d'admiration, etc. Mais alors, est-ce qu'il l'aimait beaucoup, mais qu'il en avait quand même marre qu'elle lui pompe ses finances? Enfin voilà, on sait pas trop. Bref, on perd totalement sa trace. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est morte à la fin des années 1780. Encore une fois, comme pour sa naissance, l'année exacte n'est pas connue. C'est soit 84, soit 87 en fonction des sources. Dans tous les cas, l'écart est quasiment pareil avec sa naissance. Donc on sait à peu près l'âge exact auquel elle est décédée. Et elle est enterrée à Leith. C'est presque comme une ville séparée d'Édimbourg, mais en fait, ça fait partie d'Édimbourg. C'est un peu compliqué à expliquer. C'est une paroisse, en fait, hein, une paroisse d'Édimbourg. Très proche de la côte, c'est là où il y a le Britannica. Le Britannica, le bateau d'Elisabeth et de Philippe, il est amarré à Édimbourg depuis qu'il est hors service. Et c'est juste à côté de là où Anne Macintosh est enterrée, en fait.
On voit encore sa tombe aujourd'hui ?
Elle n'existe plus.
Ah.
Ou alors, en tout cas, elle n'est plus visible, parce que moi, quand j'y suis allée en 2022, je ne l'ai pas vue. Je l'ai cherchée, je ne l'ai pas trouvée. On part sur un cimetière. Tellement petit déjà, c'est lamentable. Enfin, on se dit, c'est quelqu'un d'important, quoi. Qu'est-ce qu'elle fout là ? Et il y a un petit signe à l'entrée qui nous parle d'un premier ministre du 19e, de certains membres un peu de l'élite maritime autour de la pêche et tout ça, de la paroisse, et d'elle. Et c'est marqué « Et Anne Macintosh ». Enfin, ici, sont enterrés, blablabla. « Et Anne Macintosh, colonel ». Enfin, voilà.
Ouais, donc, on reconnaît son titre.
Une
quoi.
Mention qui existe. Ça tombe, bon, en tout cas, je ne l'ai pas vue. soit elle existe, mais elle est trop dégradée pour qu'on puisse lire quoi que ce soit, du coup, je ne l'ai pas reconnue. Soit elle est tombée, donc du coup...
Il y a des tombes tombées ?
Il y a beaucoup de tombes tombées, il y en a des craquelées, il y en a qui sont...
Pas bien entretenues et tout ça.
Ah, c'est vraiment très triste, en fait, très triste. Moi qui aime beaucoup les cimetières d'habitude, celui-ci, j'étais dans un état assez... voilà. Et en plus, très déçue, évidemment, de ne pas trouver la tombe de la personne sur laquelle j'écris mon mémoire. Et voilà, par contre, je sais qu'elle a été enterrée grâce à certaines épitaphes qui sont... immortalisée grâce à la magie de l'internet. Elle est enterrée avec sa sœur, sa petite sœur, Peggy, qui l'a beaucoup aidée pendant ses années rebelles, avec les filles de son frère, qui sont mortes avant elle, très jeunes, donc du coup du futur chef Farquharson. Et voilà, c'est tout ce qu'on sait. 84-87, mystère, et ça s'arrête là pour elle.
For centuries, the Scottish Highlands have been a law unto themselves. Two kingdoms, one king.
Issue powder and shot.
No! Fire!
Highland clans have a newfound power to make or break the kingdom.
There's even talk of a rebellion.
Blood will be spilled.
On vient d'entendre un extrait d'un documentaire qui a été fait par la BBC Scotland en 2020. Je mettrai les références en description de l'épisode avec la plupart des références que tu as données aussi. Qu'est-ce que tu penses de la façon dont elle est représentée dans ce documentaire ? Parce que, effectivement, j'imagine que toi, après, dans tes recherches, tu as dû faire beaucoup de tri entre, tu nous as dit, effectivement, entre l'historiographie et les fantasmes qu'elle a suscités.
Absolument. Et je pense que c'est important de préciser que, pour Anne McIntosh, en tout cas, l'historiographie est un fantasme quasi immédiatement, voire pendant les faits. Donc, dans ce documentaire, on a... Donc déjà, c'est pas le seul objet de l'épisode, parce que c'est une série, épisode, etc. Elle est mise en parallèle avec un autre Jacobite, qui a une histoire aussi très particulière de Simon Fraser, qui est aussi très intéressante. L'actrice qui a été castée est sublime, donc voilà... corrobore un peu ce truc de Anne McIntosh était une femme sublime, brune, un peu ténébreuse, tout ça. Première scène, elle parle en gaélique avec son mari qui lui dit « T'inquiète pas, si moi je suis du côté des Anglais, ça va aller, si moi je suis du côté... » Bref, donc on entretient un peu ce mythe de « ils s'aimaient, ils s'aimaient pas trop, ils étaient du même côté, mais ils ont un peu fait un double jeu pour être sûr que tout irait bien pour le clan, tout ça. » Donc ça déjà, c'est immédiat dans le documentaire, on a ce contexte un peu malicieux. Après, ce que j'ai adoré, ce que j'ai vu nulle part ailleurs, c'est que le tartan qu'elle porte, parce que comme vous le savez peut-être, un tartan en Écosse...
C'est comme une sorte de kilt.
Le tartan, c'est le motif qu'il y a sur les kilts. D'accord. Donc c'est le motif à carreaux qu'on porte encore aujourd'hui, mais qui n'a plus du tout la même signification, qui est associé, ça encore, c'est une longue histoire, mais un peu de façon romantique, au clan des Highlands. Et on dit que chaque clan avait ses couleurs et son motif en particulier en fonction des plantes qui poussaient autour de son siège, etc. Et dans ce documentaire, Anne porte le tartan Farquharson. Elle ne porte pas le tartan McIntosh. Ce qui est quand même un message assez fort, parce que même si on entretient encore une fois ce truc de « elle était en collaboration avec son mari, etc. », il n'empêche qu'elle ne porte pas le tartan de son mari. Elle ne s'identifie pas au clan McIntosh, mais au clan d'où elle vient, qui est mille fois plus jacobite et qui est officiellement... qui fait officiellement part de la révolte.
Donc il y a déjà eu un choix dans le documentaire de la représenter comme ça.
Donc déjà, je trouve ça super intéressant. Après, beaucoup d'images d'Épinal. Les documentaires historiques, on les connaît. Les shots sur les Highlands, à cheval en Amazon, avec ses guns à ceinture, qui menacent, on sait pas trop. Elle a l'air sympa, mais en même temps, elle est un peu menaçante et tout ça. Mais elle ne parle presque pas.
Ah, c'est beaucoup de la voix off.
Elle ne dit pas beaucoup de... Il y a des shots d'elle, c'est sûr, parce qu'on part du principe qu'elle a soulevé un régiment, donc c'est le personnage
qu'elle
principal
filmée,
de son histoire.
Elle est représentée, ouais.
Bien sûr, mais elle a pas, elle est pas très agentique, on va dire. Elle est pas dans l'action du tout.
Est-ce que toi, tu as pu étudier des sources produites par elle, ou est-ce que c'est que des sources indirectes ?
Alors, par elle, je n'ai eu le temps, parce que dans toutes mes histoires, je n'ai pas non plus, malheureusement, eu le temps de creuser autant que j'aurais voulu.
C'est qu'un mémoire, là,
voulu.
On parle d'un mémoire.
On est d'accord. Ce que j'ai réussi à trouver, qui d'ailleurs s'est réutilisé à foison, parce qu'a priori, c'est ce qu'il y a de plus accessible, c'est une lettre, une seule, qu'elle écrit à... c'est son grand-cousin, son oncle, elle est dans sa famille, quoi. Mais bon, comme ils sont tous cousins entre eux, on peut être oncle et cousin en même temps. Mais bref, où elle dit, elle parle de la révolte, quoi. Et c'est une des lettres qui prouve qu'elle était jacobite de confession, on va dire, par conviction et pas par tradition ou quoi que ce soit, où elle parle de « Ah, mais si on n'arrive pas trop à les convaincre, il faudrait essayer de les forcer un peu. » Enfin, donc on a des petits indices de peut-être voilà, du process qui a pu être le sien. Très mal écrite, ce qui n'est pas étonnant parce que les Highlands...
Dans le sens au niveau graphique ou au niveau
orthographique, en fait, elle écrit comme elle parle. Donc en fait, quand on lit, quand on prononce les mots qu'elle a écrits, on a l'accent écossais, qu'on le veuille ou non. Parce qu'elle retranscrit son accent, en fait, ce qui est assez commun... ça arrive. L'écriture à l'époque est pas, enfin l'orthographe est pas standardisée, donc il y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'écrire un mot ou un autre. Mais il y a d'autres femmes de sa situation, voire sous sa situation, qui écrivent beaucoup mieux qu'elle. Peut-être qu'elle était dyslexique, peut-être qu'elle s'en fichait, peut-être que c'est ta secrétaire qui a écrit et qui sait pas écrire. Vu comme elle était riche, elle avait sûrement une secrétaire. Mais enfin, dans tous les cas, c'est très mal écrit et c'est tout ce qui reste. En tout cas, d'imprimé et d'accessible facilement.
On n'a pas de testament, on n'a rien.
Rien du tout. J'ai essayé de retrouver, mais même des choses bêtes comme son acte de naissance, s'il n'y a pas de nom dans la paroisse, même pas dans la liste des naissances de l'année, quoi que ce soit. Dans le testament de son père, c'est marqué Anna et pas Anne. À voir si se dire qu'avec les accents, avec les traditions, le nom peut changer, mais est-ce que c'est vraiment elle, on ne sait pas. Même de façon purement administrative, elle est quasi inexistante. Il y a son contrat de mariage qui a survécu, mais parce qu'elle s'est mariée au chef McIntosh et que les McIntosh ont des archives.
Donc là, t'as quand même des choses sur elle avec le clan McIntosh.
C'est ça. Très peu, parce que, alors là encore, c'est pas de chance. Moy, donc leur maison, on va dire, le siège du clan, a été inondé au 19e siècle. Donc énormément de sources se sont perdues dans les inondations de la maison. C'est très mal rangé. Et en fait, dans la description, quand on va sur le site des archives écossaises, la description du fond, c'est marqué « Attention, on a essayé de le ranger, mais finalement, on a changé de fonctionnement et après, on a repris le premier. Mais en fait, on ne sait plus trop comment on a rangé. Donc, on vous a tout mis là-dedans et puis après, vous voyez ce que vous pouvez faire. »
Donc, quand on critique déjà... les archives françaises, en fait, là, c'est encore pire.
Ah ouais, mais alors, les pauvres, c'est pas leur faute parce que, entre les inondations... Et puis bon, une tendance à minimiser vraiment beaucoup l'histoire écossaise après, à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, où on veut vraiment être british. Donc on évite de parler de tous ces événements vraiment singulièrement écossais.
Il y a un vrai
défi historiographique et social et tout ça, qui fait que les archives écossaises sont, de l'époque en tout cas, sont pas. Si elles sont accessibles, elles sont très mystérieuses, très nébuleuses. C'est dur de s'y retrouver, c'est dur de savoir ce qui était vrai ou pas. On n'oublie pas qu'ils pouvaient parler en codant leurs lettres. Enfin,
ah oui, pourquoi faire ça?
Donc ils codent peut-être leur lettre. Il y a beaucoup de correspondances qui a été brûlée pour pas qu'on les retrouve, ce genre de choses. Donc vraiment c'est un nuage de trucs à déchiffrer et à organiser en fait. Vraiment le premier travail ce serait de remettre tout en ordre. Et rien que ça c'est colossal.
Et est-ce que tu penses avoir apporté des nouvelles choses sur Anne McIntosh avec ton mémoire ?
Alors, comment expliquer ? En fait, de base, quand moi j'ai voulu commencer à écrire sur elle, même si j'avais déjà vu le trou historiographique qui existait déjà, j'étais partie avec l'ambition peut-être beaucoup trop haute de dire « on va essayer de rétablir la vérité sur cette femme ». Il s'est vite avéré que c'était impossible, en tout cas pas avec un mémoire. Il faudrait plusieurs années et beaucoup plus de ressources pour le faire. Et donc l'objectif a dû être un peu réajusté. Et en fait, l'idée, c'est pas, encore une fois, de dire la vérité sur elle, mais de voir quelles vérités, au pluriel, ont déjà été racontées. Et c'est d'évaluer lesquelles sont les plus plausibles. Avec...
De faire une synthèse, en
voilà.
fait.
Voilà, faire vraiment un espèce d'état de l'art géant, tout en documentant avec des sources primaires, avec des travaux, par exemple les travaux sur la condition non féminine, sur l'éducation en général, sur les Stuarts, etc., en alimentant tout ça avec des faits et de dire les faits disent que ça, c'est pas trop possible, les faits disent que ça, ça l'est, mais par rapport à un autre truc. Enfin bref, essayer d'établir un peu ce qui est possible ou pas sans dire ça, c'est la version définitive.
Parce que cette synthèse, ça avait jamais été fait en tout cas ?
Non, pas du tout. Anne McIntosh a fait partie de
même
ces gens.
Même en Écosse ?
Non. Et c'est ça qui est très impressionnant, c'est ça qui m'a motivée au départ en fait, qui m'a fait choisir mon sujet finalement, c'est qu'elle est connue. Quand on parle à un Écossais, Anne McIntosh, ah oui, je vois très bien. Et en fait, c'est un nom parmi tant d'autres, parfois. Souvent, elle est dans des listes. Les femmes jacobites comme telle personne, Anne McIntosh. Les femmes de chef Hanovre comme... en fait, c'est ça. Elle fait partie de groupes qui sont différents les uns des autres. C'est ça que j'ai essayé de montrer aussi avec d'autres disciplines. J'ai fait beaucoup de recherches en anthropologie, en littérature, en sociologie, en psychologie, pour essayer d'expliquer pourquoi la postérité de cette femme est aussi... franchement, elle est instable, elle est pas solide du tout, elle repose sur rien. Et en fait, ma conclusion, c'est que, si je peux me permettre de parler comme une académique à une conclusion, c'est qu'en fait, elle est presque rentrer totalement dans des groupes, que ce soit les femmes qui disent qu'en fait elles vont agir comme des hommes et faire la guerre comme elles veulent, etc., etc. Elle est presque comme les femmes jacobites qui restent dans leur sphère féminine de management, de logistique, comme on en parlait tout à l'heure. Elle est presque comme les jacobites qui font ça, elle est presque comme les Hanovres qui font ça, etc. En fait, elle rentre pas totalement dans les bulles auxquelles elle pourrait appartenir, et elle se retrouve un peu au milieu comme ça, presque ci, presque ça, et c'est impossible de la définir correctement, parce qu'en fait elle nous a tellement échappé qu'elle n'existe plus en tant qu'elle-même, en fait. C'est très philosophique ce que je dis, mais elle a perdu de sa réalité, en fait. Elle est complètement déconnectée de... Enfin, la personne dont moi je parle aujourd'hui, 300 ans après sa naissance, c'est quelqu'un qui n'existe pas, en fait, qui a été créé par-dessus des couches et des couches et des couches de récits.
Et est-ce que tu aimerais faire une thèse sur elle?
Alors, c'était le plan. Avant de mettre mes recherches et ma carrière académique, on va dire, en suspens, je ne sais pas si j'y retournerai, peut-être pas, mais en tout cas, c'était un projet, effectivement. Encore une fois, il y a énormément de choses à faire, à débroussailler, à déchiffrer. L'idée, c'était, quand j'en parlais avec ma DR, avec Madame Prunier, c'était d'essayer de chercher dans les correspondances de famille avec lesquelles elle aurait pu entretenir des relations, donc des clans aussi influents que le sien, d'autres femmes dont on connaît les noms et leur influence, etc. De voir si on parle d'elle dans des correspondances, ce genre de choses. Elle survit, en termes de sources primaires, elle survit dans la propagande anti-jacobite et dans la propagande jacobite. Donc en fait, même les deux camps en parlent de façon différente. Donc dès 1745, elle perd de sa réalité, en fait, pour le grand public en tout cas.
Mais du coup, pourquoi tu fais pas une thèse alors ?
Je suis arrivée dans une époque de ma vie où j'ai réévalué un peu mes priorités, et le monde de l'académie me fait peur en termes de stabilité professionnelle, financière et autres. Enfin, franchement, pourtant j'en ai rêvé, hein. Vraiment, j'ai fait tourner ma vie à 360 degrés pour pouvoir faire ça. Donc j'ai commencé la grecque en début d'année, la grecque d'anglais, du coup pas d'histoire, mais enfin tout de même, pour pouvoir ensuite accéder au doctorat et tout. Et déjà, j'avais pas envie. Enfin, franchement, une flemme considérable de travailler. Enfin, j'avais pas envie, quoi. Les sujets étaient intéressants, mais bof. Et la charge de travail a été de trop, parce que je suis indépendante financièrement, donc parce que je travaille. Et donc, je pouvais pas travailler et travailler correctement la grecque à côté. Enfin, c'était perdu d'avance. Et donc, je me suis dit, OK, bon, c'est pas grave. Au pire, on se donne 2-3 ans pour passer la grecque. Sauf que du coup, dans 2-3 ans, bah, j'ai 28, 29, 30, 31 ans. Peut-être que je l'aurai au bout de 5 fois. OK, on va dire 30 ans. Après, vas-y, j'ai le contrat doc. Peut-être, peut-être pas. Donc on va dire, allez, j'ai 32 ans max quand j'ai mon contrat doc. Donc après, c'est 3 ans après, ou peut-être pas, peut-être que j'ai même plus de temps, etc. Et en fait, je me suis dit, mais flemme, flemme.
Que là, en fait, c'est un projet de vie, c'est qui ça. Est trop compliqué pour toi.
Pour moi, avec ce que je veux faire de ma vie perso, on va dire, pour moi, c'est pas compatible avec les priorités que j'ai pour moi-même, en fait. Et je sais, c'est horrible. Et ça
c'est frustrant, c'est sûr, j'imagine.
Ça m'a tordu le cœur, l'estomac, la tête, tout ce que vous voulez, parce que j'en meurs d'envie, quoi, de me barrer à Édimbourg et... J'ai fouillé dans les correspondances de toutes ces filles qui sont mortes il y a des années et tout, des siècles. Mais en fait...
Donc ça veut dire que si des gens nous écoutent...
Ça veut dire que si des gens nous écoutent...
Et veulent faire ça.
Et veulent faire ça, déjà, ils peuvent m'appeler. Et en fait, ce qui reste...
Il y a du boulot.
Il y a beaucoup de boulot. Ce qui reste à faire est quand même assez conséquent, fascinant, par d'archives familiales, quoi. Ça, c'est trop bien. D'archives familiales d'il y a 250 ans minimum, de clans écossais. Enfin, je veux dire, c'est... Waouh, ça a la gueule. Hein. Les Farquharson, par exemple, leurs archives, elles sont privées. Donc, c'est directement avec le chef actuel qu'il faut négocier et tout.
Qui sont encore le clan de l'époque.
Ouais,
qui...
wow. Ouais. Alors, maintenant, c'est très honorifique, hein, parce que le Royaume-Uni n'est plus féodal, en tout cas, bon, à discuter. Mais bref, il n'est plus féodal comme au XVIIIe siècle, déjà.
C'est encore la famille Farquharson qui gère les archives de sa famille.
Absolument. Ah, ils les ont récupérées il y a quelques
années.
Mieux
que Macintosh, alors.
Oui. Et ma DR a travaillé sur les Farquharson à l'époque de sa thèse à elle, donc à la milieu des années 90, il me semble. Et c'était déjà, il y avait déjà ce problème des archives Farquharson à gérer, quoi. Si on veut fouiller dans ces archives-là, déjà, il faut se déplacer dans la langue. Et puis il faut aller voir le chef et dire bonjour monsieur le chef, j'aimerais lire des lettres s'il vous plaît. Et c'est trop bien ça. Enfin, donc
si jamais des gens nous écoutent et voudraient se lancer dans une thèse sur le sujet, ils peuvent te contacter.
Absolument, ce sera avec plaisir. Et puis au pire, je le fais moi-même plus tard, on verra.
Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous savez qui était Anne McIntosh. Donc merci énormément Pauline Fleury, mais pour cette aventure que tu nous as racontée, même s'il y a plein de frustrations parce qu'on ne sait pas tout, ben, on a quand même appris beaucoup de choses grâce à toi, donc merci beaucoup et bonne continuation.
Merci beaucoup, bah, c'était un plaisir de venir raconter tout ça.
Non, mais
ça m'émoustille.
Oh, ben, je vois. Non mais c'est trop bien. Donc auditeurs, auditrices, vous le savez, je veux mon petit message de fin, mais c'est important, c'est qu'on vous mettra sur le site, alors c'est passionmedieviste.fr, il y a un onglet passion moderniste. Il y aura un article qui accompagne cet épisode. On vous mettra donc des références de lecture si vous voulez aller plus loin, si vous voulez savoir plus de choses. On vous mettra des cartes pour savoir où est l'Écosse, où s'est déroulée la rébellion. Bref, on vous mettra un petit peu tout ça. Encore une fois, si ça vous intéresse d'écouter un portrait, une histoire de femme avec au parcours un petit peu particulier, écoutez l'épisode 30 sur Christine de Suède qui était passionnante. Et si l'histoire des femmes en général vous intéresse, j'ai fait plein d'autres épisodes qui en parlent, donc allez voir sur mon site, vraiment j'ai tout. Et si vous voulez écouter l'histoire des femmes sur d'autres périodes, eh bien allez voir aussi mon podcast Passion Médiéviste, où là j'ai beaucoup beaucoup d'épisodes sur l'histoire des femmes, que ce soit sur des portraits en particulier ou comme j'ai parlé tout à l'heure d'épisodes un peu plus généraux sur les veuves en Anjou et plein d'autres choses comme ça. Il y a aussi mon autre podcast Passion Antiquité où on parle des histoires des femmes aussi, pas un petit peu moins je me rends compte, mais quand même aussi de temps en temps, donc allez voir tout ça. Et si vous voulez soutenir mon travail, eh bien sachez que vous pouvez le faire, alors déjà en parlant de passion moderniste autour de vous, voilà, en partageant le podcast et tout ça. Je sais, il n'y a pour l'instant actuellement qu'un épisode tous les deux mois, donc soyez patients et patientes, il y en aura d'autres, je vous assure, j'ai plein d'autres sujets à vous faire écouter. Si vous voulez me soutenir financièrement, vous pouvez le faire, je vous explique comment faire, donc sur mon site, c'est passionmedieviste.fr/soutenir, même à partir de 1 euro par mois, pour vous ce sera pas grand chose, mais si tous les gens qui m'écoutent donnaient 1 euro par mois, eh ben, ce serait génial. Même si actuellement, grâce au soutien des auditeurs, auditrices et des partenariats que je fais, je peux vivre à plus de 50% du podcast des podcasts. Donc merci énormément à tous et toutes déjà pour votre soutien en général. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Passion Moderniste. Salut!
Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? Mary of souls, she sailed on a day over the sea.